Bienvenue dans La Quotidienne. Bonjour Marie-Ève Proux. On est dans les nouveaux studios de LVA TV, de la vie agricole. On est à l'étage du 180 Grande Allée. On a déménagé récemment et on inaugure avec vous aujourd'hui les studios. Je dirais avec toi, on s'est côtoyé assez souvent sur la côte du Sud. Première question, Marie-Ève Proux. Quand on s'est vu la dernière fois, vous étiez ministre des Régions. Quelle a été la sortie politique? Comment on a vécu cette sortie politique? Et qu'est-ce qu'on fait après la vie politique?
Bonjour Yannick, c'est un plaisir d'inaugurer avec toi le nouveau studio. Comment on sort de la vie politique? Écoute, c'est pas facile sortir de la vie politique, surtout parce que quand on est passionné de ça. Toutefois, je te dirais que je suis repartie à mon compte parce que j'avais une entreprise avant de faire de la politique. Donc, je travaille sur différents dossiers très intéressants. Donc, c'est stimulant. Puis ça me permet aussi de passer davantage de temps. Hein. Tu sais que j'ai 3 enfants, donc de 14, 12 et presque 8 ans. Donc, ça me permet de passer du temps puis de rattraper le temps perdu avec eux. Donc, c'est un plaisir de passer du temps en famille, je dirais ça comme ça.
Alors, j'imagine que le sujet des régions reste un sujet qui te tient à cœur. Est-ce que c'est ce type de développement que tu fais aujourd'hui? Tu t'intéresses aux régions ou tu es sur d'autres secteurs actuellement?
Je suis sur toutes sortes de secteurs, mais la question des régions n'est jamais bien, bien loin parce que, tu sais, ce qui me passionne, c'est le développement. Puis quand on parle de développement, évidemment, moi, je crois beaucoup que ça doit passer par un développement horizontal. Puis le développement territorial des régions, c'est du développement horizontal. Moi, je crois beaucoup que tous les secteurs devraient travailler ensemble à développer le territoire, à développer le milieu, à faire avancer les choses. Donc, c'est évident que ça teinte ce que je suis en train de faire en ce moment.
Alors, le discours « oui aux régions », c'est un discours qu'on a longtemps entendu, souvent entendu. Le Parti québécois l'a représenté par Jean Garon à une époque. Par la suite, la création des CLD, c'est aussi le Parti québécois. Ensuite, la CAQ est arrivée au pouvoir, c'était le Parti des régions. Mais chaque décennie, en fait, a son Parti des régions. Là, en ce moment, c'est Québec solidaire qui nous dit être le Parti des régions parce que Émilie Dessertérien est rendue co-porte-parole de QS. Et hier, c'était le congrès de l'UPA. D'ailleurs, il y avait les différents partis qui présentaient leur vision. Elle est venue défendre le fait qu'effectivement, Québec solidaire, aujourd'hui, c'est aussi les régions. Alors, est-ce que ça peut être les régions, Québec solidaire?
Écoute, moi, j'ai une idée assez claire là-dessus qu'il faut donner la chance aux coureurs. Ça, il n'y a aucun doute. Je pense que ça n'appartient pas à personne, la question des régions. Puis en ce moment, on peut se le dire, sur la place publique, la question des régions et sur la place aussi politique, elle n'est pas là. Pour moi, c'est clair. Les régions, ce n'est pas seulement l'agriculture, hein, ça doit être aussi tous les autres enjeux qui viennent avec. Puis en ce moment, on n'en parle pas. Puis, pour ce qui est de Québec solidaire, ils ont leurs preuves à faire. Moi, il n'y a rien en ce moment qui me démontre qu'ils font des choses concrètes ou qu'ils proposent des choses concrètes pour les régions. Lors de la dernière campagne électorale, par exemple, ils n'ont pas proposé des choses qui favorisaient les régions. Bien au contraire, elles pénalisaient leurs propositions, les familles en région.
Alors aujourd'hui, tu nous dis la place des régions, on n'en parle pas. Donc, on est dans un gouvernement quand même caquis dans lequel tu as été, qui s'est présenté devant les électeurs à 2 reprises comme étant le parti des régions. Mais tu dis actuellement, on n'en fait pas assez encore pour les régions. On n'est pas parti sur un programme régional, en fait.
Pas du tout. Puis je suis très déçue de ça, je dois te l'avouer, Yannick, parce que quand j'étais à la CAQ, puis on est arrivé en 2018, il y avait un rattrapage et un retard qu'on avait pris avec les libéraux qui avaient tout coupé en région. Tous les services de planification et de développement régional avec les conseils régionaux de développement, entre autres, là, qui avaient été reconduits par les péquistes là, au début des années 2000, bien tout ça, ça a été tassé par les libéraux. Là, en 2014-2016. Donc là, toutes les régions ont été désorganisées. On a tout remis entre les mains des élus municipaux.
Mais les régions restent toujours un petit peu le parent pauvre parce que finalement, je regardais même hier à l'UPA, en fait, il y avait aussi Marc Tanguay qui est venu présenter le programme libéral pour l'agriculture et les régions. Et il a remis de l'avant la fameuse charte des régions en disant que c'était un héritage de Dominique Anglade. Donc on dirait que chaque parti veut séduire les régions, c'est évident. Mais on dirait que chaque parti qui arrive au pouvoir ne correspond pas à ce qu'attendent les régions.
En fait, et c'est clair qu'on veut séduire les régions en politique parce que l'électorat est aussi là. Hein? Quand on regarde, là, c'est une question mathématique de 125 circonscriptions. Il y en a beaucoup en région. En ce moment, Montréal, les libéraux ont leur château fort à Montréal. Donc, c'est sûr que eux, qui leur reste à séduire, c'est les régions. Mais une fois rendu au pouvoir, ce que je m'aperçois, c'est qu'on laisse tomber les engagements où on ne va pas plus loin dans les orientations, les visions à long terme pour les régions. Puis en ce moment, c'est une question d'occupation du territoire. Il y a une baisse démographique importante là, dans les régions, puis on n'accompagne pas ces milieux-là.
Alors justement, occupation du territoire, parce que je voudrais qu'on parle de l'ITAC juste après, mais occupation du territoire, ça m'amène sur deux sujets. Un sujet très agricole, qui est le blé. Actuellement, avec les céréaliers du Québec, on travaille et avec des partenaires, en fait, Saint-Méthode, des premières moissons, des privés. Tout le monde réfléchit actuellement à comment faire plus de blé au Québec, puisqu'il y a des rapports qui sont sortis qui démontrent que le blé, pas pour les animaux, mais le blé pour le pain, le blé panifiable, on va chercher 80% de notre blé dans l'Ouest canadien. Puis tout le monde nous dit, dans les anciens, on parle à Michel Saint-Pierre, Marc Dion, des anciens souverainistes, tout le monde nous dit, ouais, mais il y a 50 ans, on en faisait du blé pour le pain, puis il y a les semences pour le faire. Donc en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, les producteurs du Québec ne font pas le blé pour le pain du Québec. Les farines sont faites au Québec, mais pas le blé. Et on essaie de réfléchir, est-ce que ça, c'est pas une identité du Québec? Et autre sujet identité, on va dire, sur le Québec, c'est beaucoup de gens nous parlent actuellement de la disparition du monde du cheval. Alors, oui, il y a le cheval western qui est très présent à cause du country actuellement, mais il y a quand même une grande partie de l'économie de l'élevage de cheval de course qui est partie en Ontario. Tout le monde nous dit les entraîneurs, les meilleurs entraîneurs québécois sont en Ontario, les meilleurs jockeys sont en Ontario, les saillies les plus payantes viennent de la génétique québécoise. Et tout le monde nous dit que le Québec, c'était la Mecque en termes de cheval de course en Amérique du Nord. Puis tout ça a disparu par la magie des libéraux un jour. Est-ce que ça, c'est des identités du Québec? Et qu'est-ce qu'on fait pour retrouver cette identité?
Je trouve ça intéressant comme question. Évidemment que je ne suis pas une spécialiste, mais je vais faire un parallèle avec ce qui se passe dans la stratégie québécoise de recherche et d'innovation du ministère de l'Économie. Dans cette stratégie-là, on veut ramener différents secteurs pour devenir de plus en plus autonomes au Québec. La pandémie nous a démontré qu'il y avait des productions. Hein, puis là, tu parles du blé, tu parles des chevaux. Des productions qui sont complètement disparues. Puis pendant la pandémie, comme gouvernement, on a eu de la difficulté à trouver certains matériaux ou certaines conceptions pour fournir nos États, notre système de santé. Donc moi, je ferais le même parallèle avec des situations comme ça de blé, où on a besoin de blé, puis il y a de plus en plus de producteurs, distillateurs, producteurs de bière qui veulent faire leur propre grain ici. C'est la même chose pour le blé, pour faire notre propre pain. Je pense que ça rentre dans l'autonomie alimentaire aussi, où la politique bioalimentaire préconise cela. Puis c'est devenu très, très, très important après la pandémie. Puis je pense que c'est ce que ça a mis en lumière, la pandémie. Pour moi, c'est une véritable opportunité qu'on doit prendre. Donc, autant pour le blé. Puis les chevaux, je trouve ça intéressant parce que ça pourrait donner des caractéristiques, ça pourrait donner un rayonnement à des régions parce qu'effectivement, puis on se souvient historiquement, même si je ne suis pas très vieille, on se souvient qu'historiquement, il y avait plusieurs éleveurs de chevaux, puis les chevaux du Québec étaient reconnus à l'époque comme étant la crème de la crème. Donc, pourquoi pas relancer cette idée pour relancer une ou des régions au Québec?
Dernière question. L'ITAC, l'Institut des technologies d'agroalimentaire du Québec. Bon, on a suivi, nous, la transformation de l'ITA en ITAC, en fait. Ça a été un petit peu de remous à l'époque. Tout le monde n'était pas en faveur. Certains craignaient, notamment à la Pocatière. Les gens nous ont dit, mais tout va partir à Saint-Hyacinthe. La direction va être à Saint-Hyacinthe. C'est la fin du campus de la Pocatière. Est arrivée Aïcha, en fait, la directrice, qui vient de partir. Il se passe quoi à l'ITAC? Est-ce que les gens sont heureux à la Pocatière actuellement ou est-ce qu'ils ont des raisons d'être malheureux sinon?
En fait, l'ITAC, c'est clair qu'elle restera à la Pocatière. Maintenant, dès qu'il y a un petit changement, comme le départ de la directrice, ça a créé certains remous, ça a créé des incertitudes dans le milieu. On a crié au loup, je pense au maire de Saint-Roch-des-Aunais, par exemple, là, qui a imploré le président de le rencontrer. Le problème avec l'ITAC, là, dans ma perception et dans ma perspective à moi, avec la connaissance du dossier que j'ai, c'est que la région doit se prendre en main. En ce moment-là, Saint-Hyacinthe a le couteau entre les dents, puis eux travaillent à développer des projets pour devenir la capitale de l'agriculture au Québec. Et pourquoi la Pocatière ne travaille pas ensemble? Lorsque j'étais députée, puis il y a eu enjeu...
Mais l'ITAC de la Pocatière, ça reste que c'est l'histoire de l'agriculture au Québec?
C'est l'histoire de l'agriculture au Québec, t'as tout à fait raison. C'est le berceau, pour moi, de l'agriculture au Canada, la Pocatière. C'est pas rien. Mais il faut que les gens qui sont là actuellement, les élus locaux, les acteurs de la région au niveau éducation, pas juste l'ITAC, Les centres de recherche, il y a des centres de recherche et d'innovation importants à la Pocatière. Ils doivent travailler ensemble, proposer des projets, puis je suis sûre qu'ils auront une écoute de la part du gouvernement. Mais pour le moment, ils restent à chialer. Puis dès qu'il y a quelque chose qu'ils ne font pas leur affaire, ils réagissent. Mais là, il est temps d'être proactif. Puis quand j'étais députée, on a mis en place un comité de réflexion. Pourquoi ne pas devenir une cité d'innovation agricole à la Pocatière, dans une certaine forme d'agriculture? Justement, il y avait aussi, il y a la technique équine qui est à l'ITAC aussi. Pourquoi ne pas travailler l'idée des chevaux? Il y a plein de possibilités en termes d'agriculture au Québec. La Pocatière doit se positionner, doit mettre le couteau entre les dents, eux aussi. Puis c'est en travaillant ensemble, puis en arrêtant de réagir à toutes sortes de propositions plutôt que, puis de prendre leur place, puis de proposer des projets.
Toi, tu nous confirmes qu'avec la nouvelle formule ITAC, en fait, il y a la place pour les deux campus.
Il doit y avoir place pour les deux campus. Puis je te dirais, Yannick, que... excuse-moi, mais je perds mes écouteurs. Je te dirais, Yannick, que c'est confirmé dans les règlements, dans les lois, que la Pocatière restera. Il faut arrêter de s'inquiéter. Il faut devenir proactif pour maintenant faire grandir la Pocatière. Parce que là, plus on chiale, plus on s'inquiète, plus on perd des plumes. Mais ça ne fermera pas. Ça, c'est clair. Pour moi, c'est très clair. Mais on doit faire grandir, parce que là, c'est toute la région qui va y gagner si on fait grandir avec des projets concrets, stimulants et ambitieux.
Merci, Marie-Ève Pou, d'être passée nous voir au studio ce matin.
C'est un plaisir. Merci à vous.